quand il y a des choses qui se répètent dans la parole, quand il y a des choses sur lesquelles le Seigneur Jésus, mais aussi l'apôtre Paul et d'autres reviennent souvent, c'est que c'est important. Et ce qu'on va voir ce soir, je ne serai pas long, mais c'est quelque chose qui revient tellement souvent que ça me semble important. Alors regardez, on va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, passage que les chrétiens connaissent, hein, le cep et les sarments, on connaît bien ça. On va prendre juste quelques versets. Voilà ce que dit Jésus, Jean chapitre 15, verset 2. Jésus dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et puis le verset 8, où Jésus dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Amen. Voilà. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Je crois que c'est ce qu'on désire. On désire que Dieu soit glorifié, on désire que Dieu soit honoré, on prie pour que la gloire de Dieu se manifeste, on prie pour que le nom de Jésus soit connu, on prie pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent le rencontrer. C'est notre désir. Mais au travers de ce verset, on découvre que quelque part, on a notre part à faire. On a notre responsabilité. Vous avez remarqué autour de quoi ça tourne, toutes ces paroles, le fait de porter du fruit. Vous voyez, c'est quelque chose qui revient d'une manière tellement abondante, notamment dans les évangiles et dans la bouche de Jésus, que je crois quand même que ça mérite qu'on s'y arrête. Hein, et de nous amener à nous poser cette question, et ce soir je nous la pose, avant de vous la poser, je me la suis posée à moi, avant de vous prêcher ce que je vais prêcher, je me le suis prêché à moi. Vous savez que je me prêche à moi d'abord. Hein. Donc, est-ce que ma vie, est-ce que notre vie porte du fruit? Ou est-ce qu'il n'y a que des feuilles? Rappelez cet épisode de Jésus qui s'est approché d'un figuier pour recueillir les fruits. Et puis quand il s'est approché, il n'y avait que des feuilles. Et on se souvient que c'est là qu'il a maudit le figuier. Donc quand même, ça doit nous interpeller. Et là où ça m'interpelle, c'est que, je l'ai dit, Jésus a souvent parlé de ça. Il a souvent tourné autour de ce sujet-là, porter du fruit. Alors on le voit ici, mais on va se rafraîchir un petit peu la mémoire. Rappelez-vous, par exemple, Jésus a donné une parabole, moi, qui m'a toujours interpellé. Regardez Luc, chapitre 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, et regardez, le but c'est ça, il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Parce que ce qui intéresse le Seigneur, c'est ça. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est quand il est venu dans sa propriété, voir ce figuier, ce qui l'intéressait, ce n'était pas de savoir comment allait le tronc et tout le reste. Hein, non, le fruit, il vint pour y chercher du fruit. Et regardez la suite, vous la connaissez, alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il de la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Et peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Vous voyez, c'est très intéressant parce que, dit d'une autre manière, on retrouve ce qu'on a lu dans Jean 15. On a lu au verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Ben ici, vous avez au travers de ce figuier un peu la même chose. S'il occupe de la terre inutilement, ben il faut le couper. Quoi. Hein? Parce que le désir du Seigneur, c'est que notre vie, elle porte du fruit. On n'est pas là simplement pour occuper une chaise. On n'est pas là simplement pour dire « Merci Seigneur, tu m'as sauvé. » Mais on est là pour que notre vie, elle porte du fruit à la gloire du Seigneur. Voyez. Et quelque part, on réalise que pour le Seigneur, c'est important. Quand il nous regarde, il veut voir du fruit. Quand il regarde ma vie, il veut voir du fruit. Après des années de marche avec le Seigneur, est-ce que je porte du fruit ou est-ce que j'occupe de la terre inutilement? Vous voyez, c'est un peu ça l'enseignement ici. Regardez un petit peu plus loin. Alors là, il y a un contexte bien particulier. C'est le contexte des faux prophètes. Mais Jésus parle encore de ça. Regardez Matthieu 7. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et regardez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous voyez, ça revient dans la bouche de Jésus. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Vous voyez donc, Jésus revient à ça, à la nécessité de porter du fruit. Mais ce qui m'interpelle, c'est la suite. Un petit peu plus loin, voilà. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyez ? Alors, bien sûr, ici, c'est le contexte des faux prophètes. Mais je pense quand même qu'on peut élargir ça en disant que de la même façon, le chrétien, l'enfant de Dieu, c'est à son fruit qu'on va le reconnaître. En tout cas, qu'on doit le reconnaître. Voyez ? Je vais prendre cette image toute simple, je vais revenir à ça là, parce qu'il y a quelque chose d'important là. Mais moi, j'y connais rien en arboriculture, j'y connais rien. Si je ne vois pas des pommes sur un arbre, je ne sais pas que c'est un pommier. Peut-être qu'il y en a qui connaissent plus que moi, mais bon. Si je ne vois pas des abricots sur un abricotier, je ne sais pas que c'est un abricotier. Et si je ne vois pas des cerises sur un cerisier, je ne sais pas que c'est un cerisier. Bon, peut-être que je suis un peu neuneux, mais ce n'est pas grave. Mais j'ai besoin de voir le fruit pour savoir me dire « Ah tiens, là, c'est un abricotier, tiens, là, c'est un pommier, tiens, là, c'est un cerisier. » Vous voyez ? Bon, quand on s'y connaît un peu, c'est autre chose. Mais je crois que quand je prends cette image-là pour dire que je crois qu'un chrétien, c'est pareil. Vous avez des tas de gens aujourd'hui, quelque part, qui, au niveau des choses de Dieu, peut-être parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais ils y connaissent rien ou pas grand-chose, ils ne veulent pas l'entendre parler. Comment ils vont savoir que quelque part, que le Seigneur est vivant, qu'il peut faire quelque chose dans leur vie, si dans la vie d'un croyant, en tout cas de quelqu'un qui se dit chrétien, croyant, il ne voit pas du fruit ? Ils ne voient pas quelque chose de différent. Et c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On doit nous reconnaître. On doit nous reconnaître. Non pas parce qu'on dit, ouh, je suis croyant, je suis chrétien, parce que les beaux discours, les gens n'ont que faire, mais on doit nous reconnaître à notre fruit. Il doit y avoir quelque chose, hein, vous savez, de ces petites choses, on dit, tiens, lui, elle, il a quelque chose, elle a quelque chose, je ne saurais pas le définir, je ne saurais pas l'expliquer, mais il a quelque chose que je ne sens pas ailleurs. C'est ça le fruit, vous voyez ? C'est ça qui va amener les gens à réfléchir. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Vous voyez ? Et là, votre témoignage, il a du crédit. Là, on se dit, mais tiens, vous pouvez parler du nom du Seigneur. Vous voyez ? C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Mais dans ce passage, il y a quelque chose d'assez intéressant. Vous relirez ça. Tu peux me remettre le verset 17 ? Je te fais travailler, excuse-moi. Mais regardez, vous savez, dans la Bible, je me suis rendu compte, et je me rends compte de plus en plus, il y a des fois des petites nuances qui sont très importantes. Et ici, dans ce texte, tout au long de ce texte, il y en a une là qui est très importante. Vous avez remarqué que Jésus parle de bons fruits. Il ne parle pas nécessairement de beaux fruits, mais de bons fruits. C'est une petite nuance, mais quand on y réfléchit, c'est très important. Parce que le fruit peut être beau et pas spécialement bon. Bon, s'il est beau et qu'il est bon, tant mieux. On ne va pas se battre, hein. Mais des fois, vous pouvez voir un beau fruit, puis vous le goûtez, c'est amer, c'est tout ce que vous voulez. Voyez, mais sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Et dans tout cet enseignement, vous regarderez, Jésus parle toujours de bons fruits, pas de beaux fruits. Pas de beaux fruits. Parce que quelque part, le Seigneur, ce n'est pas l'apparence qui l'intéresse. Le Seigneur ne regardera jamais à l'apparence. Vous voyez, aujourd'hui, on vit dans un monde d'apparence où on essaie d'attirer nos regards par tout un tas de choses. Mais ce que le Seigneur cherche d'abord, c'est du bon fruit. Pas spécialement et spécifiquement du beau fruit. S'il peut être beau et bon, tant mieux. Mais d'abord bon. D'abord bon. Et regardez, au chapitre 12 de Matthieu, verset 33, vous retrouvez la même chose. Regardez. Où dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon? Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Voyez ? Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. C'est ça qui intéresse le Seigneur, pas beau. D'ailleurs, dans l'enseignement qu'on a lu tout à l'heure, dans Matthieu 7, les faux prophètes, rappelez-vous, ce que dit Jésus un petit peu plus bas, on ne l'a pas lu, mais Matthieu 7, versets 22 et 23, « Plusieurs viendront en ce jour et diront, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela, etc. etc. » Vous connaissez ce passage ? « N'avons-nous pas chassé des démons ? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Jésus n'a jamais dit que ce n'était pas vrai. Donc c'est que certainement c'était vrai. Le fruit semblait beau. Mais quand vous lisez la conclusion, il n'était pas bon. Puisque Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez, la petite nuance, elle est là. On pourrait passer très vite dessus. Mais beau fruit ou bon fruit, le Seigneur préfère que ce soit bon. Et Dieu nous appelle à porter du bon fruit. Pas spécialement du beau fruit. De toute manière, ce qui est bon pour le Seigneur ne le sera pas forcément pour ceux qui ne le connaissent pas. Voyez. Et ce qui est beau pour le croyant n'est pas forcément beau. Voyez, parce que nos valeurs sont différentes. Voyez. Mais le Seigneur nous appelle à porter du bon fruit. Alléluia. Regardez, vous le retrouvez chez Jésus, mais vous le retrouvez chez l'apôtre Paul. Il va dans le même sens. Regardez, j'ai pris juste deux textes, il y en aurait d'autres. Mais regardez, Romains, chapitre 1, verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Voyez ? Comme parmi les autres nations, mais j'ai été empêché jusqu'ici. Afin de recueillir. Parce que c'est ça qui intéresse le Seigneur. C'est ça qui intéressait l'homme de Dieu, mais c'est ça qui intéresse le Seigneur, hein, qui est du fruit. Qui est du fruit. Et puis regardez, Tite, chapitre 3, verset 14. Il faut, dit Paul, que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Vous voyez, ça revient comme dans tout. J'en ai pris que deux, hein, mais ça revient dans tout un tas de textes. Vous voyez, c'est important. Dieu veut qu'on porte du fruit. Alléluia. Hein, du bon fruit. Et je me dis que quelque part, c'est peut-être pour ça que Jésus va dire à un moment donné, les premiers seront les derniers seront les premiers, parce que peut-être on sera surpris. Vous voyez, moi ça m'interpelle, dire Seigneur, que tu nous aides à porter du fruit, que ma vie elle porte du fruit. Alors, la question qui est importante et intéressante, c'est comment porter du fruit? Parce que sinon on peut tourner autour du truc là, et on ne sera pas plus avancé. Hein. Comment porter du fruit? Et j'ai noté, je ne veux pas être long, j'ai noté quatre conditions essentielles, indispensables, me semble-t-il, pour porter du fruit. Je ne dis pas que c'est quatre, il y en a certainement d'autres, mais au moins c'est quatre. Et je suis convaincu que si ces conditions, ces critères, appelez ça comme vous voulez, sont remplis, alors notre vie portera de bons fruits. Le premier critère ou la première condition, alors ça coule de source, mais je crois qu'il faut le dire, c'est que pour porter du fruit, il faut à la base, préalablement, être né de nouveau. Ça coule de source, mais il faut le dire. Il faut être né de nouveau. Il faut s'être repenti de ses péchés. Parce que sinon, on ne peut pas porter du fruit hein, dans le sens spirituel. C'est impossible. Et d'ailleurs, on se souvient que Jean-Baptiste va dire aux religieux qui venaient pour se faire baptiser par lui, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Voyez, quelqu'un qui est authentiquement né de nouveau, qui s'est converti, qui s'est repenti, il n'est pas parfait. Il n'est pas sans défaut. Non, non, non. Mais quelque part, quand même, il va y avoir certains fruits, les fruits de la repentance. Ça va se voir. Ça va se voir dans ses façons d'être, dans ses façons de faire. Il y aura des choses qui auront changé. C'est plus le même. Même dans la façon de réfléchir, dans la façon de parler, dans la façon de se comporter, dans la façon de vivre. Ça va se voir. Et même quelque chose qui est important, c'est même quand on fera quelque chose qui n'est pas bien, on va se sentir repris. Avant, on l'aurait fait, ouf, ça nous aurait... Mais là, on va se sentir repris. Mais ça, c'est un bon signe. Ça prouve qu'il y a le fruit de la repentance. Ça prouve que quelque part, il y a l'œuvre de Dieu qui se fait. Parce qu'avant de connaître le Seigneur, quand il n'y avait pas ça, hein, quand le Seigneur n'avait pas fait son œuvre dans notre cœur, vous savez, on pouvait faire pique-pendre. Ça ne, je sais pas, hein, la conscience, elle ne travaillait pas. Hein. Mais quand l'œuvre de Dieu s'est faite dans notre cœur, il y a des choses qui bougent. D'ailleurs, rappelez-vous, je prends juste un exemple, mais vous vous rappelez de Zachée, quand Jésus est rentré dans sa maison, vous rappelez ce qu'il va dire, hein, je prends juste la fin. Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Mais vous avez là quelque part des fruits de la repentance. Et il s'est passé quelque chose. Parce qu'avant, il n'aurait jamais fait ça. Voyez, et je crois quelque part que la première condition, elle est là. Si après des années de marche avec Dieu, enfin, entre parenthèses, et j'allais dire, même si je suis passé par les eaux du baptême, parce que ça, c'est pas... Le baptême, il ne sauve pas. Hein. Mais je n'ai pas changé. Je me comporte toujours de la même façon. Je suis toujours comme avant dans mon caractère, dans mon état d'esprit. Je fonctionne comme avant. Je me pose des questions sur la repentance et sur la conversion. Voyez. Donc, première condition pour porter du fruit, il faut être né de nouveau. Vous allez me dire, ça c'est logique, on passe. Mais je crois qu'il faut le dire quand même. Deuxième critère ou condition, vous l'avez dans ce texte de l'Ancien Testament que j'aime beaucoup, le psaume 92. Versets 12 à 14, ou suivant les versions de 13 à 15. Hein. Regardez, il est dit, « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. » Vous voyez, dans les choses de Dieu, ce n'est pas une histoire d'âge. Hein. Ce n'est pas une histoire d'âge. Hein. Caleb, il avait 85 ans, et mes amis... Le petit vieux, il y allait. Hein, voyez. Donc, ce n'est pas une affaire d'âge, hein, c'est une affaire de cœur. Voyez. Hein, mais ici, il y a deux choses qui me semblent importantes. Tu peux me mettre le verset précédent. Il y a deux choses importantes. quand il est dit planté, merci, dans la maison de l'Éternel. Déjà ça, planté, ce terme, il m'interpelle parce que ça nous parle d'enracinement. Vous voyez, d'enracinement. Et je crois que quelque part, ça nous montre une chose, c'est que ça nous montre que si on veut porter du fruit pour Dieu, on ne peut pas se contenter du minimum. Il faut qu'on soit enraciné. Il faut qu'on soit planté. Vous voyez, je ne peux pas, dans ma vie avec Dieu, me contenter du strict minimum et penser que ça suffira pour plaire à Dieu, honorer Dieu, et puis porter du fruit. Non, il faut qu'il y ait un minimum d'entretien dans ma vie spirituelle. Il faut que je sois enraciné, planté, vous voyez, permettez-moi, harnaché. Parce que sinon, vous savez, sur le plan terrestre, je parlais tout à l'heure des arboriculteurs, mais je me dis que leur exploitation, ils l'entretiennent. Hein. Leur arbre, leur abricotier, leur pommier, tout ce que vous voulez, mais ils ne les regardent pas, et puis d'une année sur l'autre, ils les laissent tout seuls, sans entretien. Hein. Non, ils entretiennent, ils font ce qu'il faut, ils nettoient. Enfin, je ne suis pas du métier, mais je me doute que forcément, ils vont faire ce qu'il faut pour que l'année d'après, leur arbre porte encore plus. Voyez, mais sur le plan spirituel, c'est la même chose. C'est la même chose. Si je veux porter du fruit, il faut que j'entretienne, il faut que je fasse tout pour m'enraciner. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien, je ne l'ai pas donné ce verset, je vais vous le citer. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 19, il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et notez bien, « Entretenez-vous !» Je ne peux pas porter du fruit si je me contente du strict minimum. Ça ne peut pas le faire. Il faut un minimum d'entretien. Voyez. Et puis, il y a une chose que je note ici, c'est planter, ok, mais pas n'importe où, dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Et ça nous parle de la présence de Dieu. Si je veux porter du fruit, il faut que je sois un habitué de la présence de Dieu. J'ai noté dans le psaume 27, David pouvait dire ceci, « Je demande à l'Éternel une chose. » Pas cinq, pas trois, pas deux, une. « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Alléluia. Parce qu'il savait que dans la présence de Dieu, sa vie porterait du fruit. Et il n'y a rien à faire. Si on veut porter du fruit, il faut qu'on soit des habitués de la présence de Dieu. Alors après, bien sûr, on vient dans la présence de Dieu dans un moment comme celui-là, mais à la maison, chez nous, quand on est tout seul, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, moi je ne sais pas c'est quoi votre sanctuaire. Hein, moi j'en ai connu, leur sanctuaire c'était la voiture. Hein, ils partaient au boulot, ils avaient demi-heure, trois quarts d'heure de voiture, et pendant ces demi-heure, trois quarts d'heure, bon, il ne fermait pas les yeux, heureusement. Hein. Mais tout en ayant les yeux ouverts, la voiture, c'est leur sanctuaire. Vous voyez ? Ben, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'importe l'endroit, qu'importe le lieu, mais être un habitué de la présence de Dieu. Vous voyez ? Et ça, c'est important si on veut porter du fruit. Hein ? Quand Jésus dit, je regardais ça tout à l'heure, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et j'ai toujours dit, là aussi, vous avez une petite nuance. Jésus a jamais dit, mais si tu pries, parce que si tu pries, ça veut dire, ouais, quand ça t'arrive, quoi. Mais Jésus dit, mais quand tu pries, c'est pas pareil. Quand tu pries, c'est pas si tu pries, c'est quand tu pries. Ça veut dire que c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Mais si je veux porter du fruit, il faut que la présence de Dieu, ce soit quelque chose qui, pour moi, soit habituel. Alors, je dis pas d'y passer des heures et des heures, chacun fait comme il peut, chacun a sa vie, mais quand même. Quand Paul disait prier sans cesse, c'est dans cet esprit-là, voyez, être un habitué de la présence de Dieu. Et c'est comme ça que ma vie va porter du fruit. D'ailleurs, tout à l'heure, dans Jean 15, qu'est-ce qu'on a lu ? Jean 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Voyez, il y a une communion, il y a une relation, entre les deux, il y a un lien. Voyez, et quand c'est le cas, ben, celui en qui je demeure et celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Il y a le fruit. Si la présence de Dieu, c'est quelque chose qui pour moi est important et c'est quelque chose pour moi dans lequel je vais à tout prix venir. D'ailleurs, ça me fait penser à Asaph qui n'allait pas bien jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et là, il a repris vie. Voyez, et sa vie a recommencé à porter du fruit. On a besoin de la présence de Dieu. On ne peut pas porter du fruit sans venir dans la présence de Dieu. Si je viens dans la présence de Dieu à la sauvette, quand j'ai le temps, et je ne veux juger personne, ni culpabiliser personne, mais au contraire que ça puisse nous interpeller, ben je ne pourrais pas apporter du fruit. Voyez. Une autre condition, je ne vais pas m'y arrêter parce qu'on est tous d'accord avec ça, mais quand même, regardez, dans le psaume 1er, Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y aurait beaucoup de choses à dire là. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Regardez, il est comme un arbre planté. Vous voyez, on retrouve planté. Hein, on retrouve ça. Hein, près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous rendez compte ? Vous voyez ? Là, on a une condition importante aussi. C'est l'importance de la parole. Il faut que la parole ait toute sa place dans ma vie. Voilà, c'est que ce ne soit pas simplement un verset à la sauvette, hein, ou juste le verset du calendrier. Moi, je bénis Dieu, hein, le matin, le verset du calendrier, la pensée du jour. Qu'importe. Mais il ne faut pas que ça se limite à ça. Quoi. Vous voyez ? On a besoin de se nourrir. Et puis, moi, je ne sais pas vous, mais je lis et je relis des textes. Et des fois, je me dis, mais comment tu n'as pas vu ça ? Et c'est comme ça qu'on se nourrit et qu'au travers de ça, le Saint-Esprit fait son œuvre en nous et nous permet de porter du fruit. Vous voyez, c'est important. Regardez dans le psaume 119, verset 97, et bien que ce soit nous ça. « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Vous voyez, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Vous voyez, qu'on puisse bien dire, être de ceux qui disent j'aime ta parole, Seigneur. » On le chante des fois. « J'aime ta parole, Seigneur. » Il ne faut pas que ce soit qu'un chant, parce que sinon, on est des menteurs, quoi. Vous voyez, ça va nous aider à porter du fruit. Et puis une dernière condition, et celle-là, c'est peut-être, j'allais dire, elle est la plus difficile. Ouais, c'est la plus difficile. C'est Jésus qui nous la donne. Regardez, ce verset, on le connaît, Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors bien sûr, là, en premier lieu, c'est de lui dont il est question là. Parce que Jésus a été ce grain de blé jeté en terre et qui est mort, voyez. Et il a porté beaucoup de fruits, la preuve on est là. La preuve on est là ce soir, voyez. Mais ça nous enseigne une chose, c'est que si on veut porter du fruit pour le Seigneur, et ça c'est pas évident, il va falloir mourir à nous-mêmes. Et ça, c'est peut-être plus difficile et c'est souvent là que ça bloque. Hein. D'une certaine façon, Jésus l'avait dit avec d'autres mots, quand il va dire « si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, etc. Et » qu'il renonce à lui-même. Et c'est pas évident. Hein. Et puis Jean-Baptiste va le dire avec d'autres mots. « Il faut qu'il croisse et que je diminue, que je meure. » Vous voyez, c'est pas évident ça. Mais ça nous enseigne une chose, c'est que pour porter du fruit, il faut mourir à nous-mêmes. Vous voyez, il faut mourir à nous-mêmes. Je vais le dire comme ça, moi je l'ai noté comme ça. Trop de moi tue le fruit. Trop de moi, alors dans le moi il y a quoi? Il y a le caractère, il y a, je sais pas, il y a bien de choses. Trop de... Tout ça, ça, quand il y en a trop, et je me dis Seigneur, il y en a encore trop, ben, je vais parler au moins pour moi. Ben, ça tue le fruit. Enfin, en tout cas, ça le freine, ça le bloque, c'est pas comme ça devrait. Parce que le moi, il a besoin de mourir. C'est pas évident, vous voyez ? C'est pas évident et c'est pour ça que parfois ça bloque, que le fruit n'est pas ce qu'il devrait être, vous voyez ? D'une certaine façon, c'est un peu ce qu'a refusé le jeune homme riche. Il a refusé de renoncer à tout ce qu'il avait. Bon, Jésus avait rien contre les richesses, c'était pas ça le problème. Jésus voulait lui montrer qu'il y avait des choses auxquelles il fallait renoncer, il fallait qu'il y ait une mort à soi-même. Et il n'en a pas voulu. Il n'a pas voulu, vous voyez, et on sait ce qu'il en est advenu. Je pense à Pierre. À un moment donné, il a fallu qu'il meure à certaines de ses conceptions. Je n'ai jamais rien mangé, ni de souillé, ni d'impur. Et il va dire, acte 10, 28, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Alors bien sûr, il y a un contexte particulier, mais il avait des idées bien arrêtées. Il a fallu qu'il meure à ça. D'ailleurs, il a eu des problèmes. Hein. Il a eu des problèmes, mais... Mais après, derrière, quel fruit dans la maison de Corneille, vous voyez, etc., etc. Vous voyez, pour porter du fruit, il faut mourir à soi-même. Et ça, ce n'est pas évident. Et je crois que parfois, Dieu permet certaines situations. Et je le dis parce que je l'ai vécu, mais il n'y a pas que moi. Hein. Je crois que parfois, Dieu permet certaines situations pour qu'on meure à nous-mêmes. Des fois, on se demande certaines choses... Pour qu'il y ait des choses qui meurent, voyez, pour que ce soit, je ne sais pas moi, au niveau de notre caractère, au niveau de certaines choses qui ont besoin de tomber. Vous savez, quand on a lu dans Jean 15, tout sarment qui est en moi, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. L'émondage, c'est quoi? tchac, 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 tchac. Et quand vous coupez, ça fait mal, hein. Quand le Seigneur, il vient, il dit tchac, tchac, il met un coup de sécateur. Oh. Mais c'est pour que ça porte encore plus de fruits. Voyez. Et c'est quelque part une sorte de mort, voyez, une petite mort. Mais il faut passer par là. Il y a des moments où Dieu permet certaines choses pour qu'on meure à nous-mêmes, pour qu'on porte du fruit. Et des fois, on se dit, mais Seigneur, voilà, c'est pas possible. Je me suis rendu compte avec le recul parfois. Bien sûr, on s'en rend compte une fois qu'on en est sorti. Hein. Parce que quand on est dedans, on ne le voit pas. On s'en rend compte, on se dit, finalement, ça m'a fait du bien, quoi. Ça m'a un peu raboté de ce côté-là. Ça m'a un peu coupé de ce côté-là. Mais finalement, c'était bon parce que, bon, peut-être sans ça, je n'aurais pas saisi ou je n'aurais pas compris. Mais c'est pour porter du fruit. Et même des fois, il y a des situations. Je vais vous dire, des fois, il y a des moments où il a fallu que j'apprenne là-dessus. Et le Seigneur nous apprend. Hein, il a fallu que j'apprenne des fois. C'est dur, ça. Hein, oh, purée. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais c'est dur. Et des fois, dire, bon, écoute, tu le veux comme ça, vas-y. Laissez tomber. Des fois, ne serait-ce que laisser tomber. Dire, bon, je laisse tomber, ça ne sert à rien de vouloir tout prix avoir le dernier mot, de vouloir avoir raison, de vouloir toujours. Et peut-être que vous avez tous les arguments pour montrer que vous avez raison, mais plus vous le faites et moins ça marche. Et des fois, il faut apprendre à laisser tomber. Mais c'est une mort, ça. Parce que ce n'est pas notre caractère. Et parfois, le Seigneur permet certaines choses pour. Et des fois, ça fait bien plus de boulot. Ça porte bien plus de fruits que si on avait voulu l'ouvrir et puis que ça aurait fait l'effet contraire. Et parfois, Dieu permet certaines situations où, et des fois, je laisse tomber. Et puis après coup, je me suis rendu compte, c'était pas mal finalement. Ça n'a pas été facile. Je crois qu'il y a des situations que Dieu permet, parfois ça nous apprend. Alors c'est pas simple, c'est pas évident, parce que la mort à nous-mêmes, c'est pas naturel. C'est pas dans notre nature. On n'en veut pas. Hein, mais Jésus quand même le dit. Si le grain de blé, vous savez quand Jésus dit je vous le dis, moi j'ai regardé un peu, mais c'est fou le nombre de fois où Jésus dit je vous le dis. Si c'est moi qui le dis, n'écoutez pas. Mais si c'est Jésus qui le dit, faut l'écouter quoi. Je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et le Seigneur veut qu'on porte beaucoup de fruits. Alors des fois il y a des moments où le Seigneur permet certaines choses à nous pour émonder. Voyez. Et les mondages, on n'aime pas. Mais c'est nécessaire pour porter encore plus de fruits. Alors mon désir, c'est que les uns et les autres puissent réaliser ces choses. Je ne vous ai rien appris ce soir, mais qu'on puisse dire, Seigneur, que ma vie, elle porte du fruit. Je ne voudrais pas que tu t'approches et que quelque part, il n'y ait que des feuilles, quoi. Il n'y ait que des, voyez, que de l'apparence. Le fruit semble beau, mais il n'y en a pas, quoi. Ou de loin, et puis, vous savez, de loin. Et puis quand on regarde un peu plus près, finalement, il n'y a pas grand-chose, quoi. J'ai pas envie de ça, moi. Parce qu'un jour, il faudra se présenter devant Dieu. C'est pas là pour nous faire peur, mais c'est là pour nous amener à prendre conscience de ça, pour dire, Seigneur, que ma vie, elle porte du fruit. Aide-moi, Seigneur. Et si peut-être le fruit n'est pas encore tout à fait ce qu'il devrait être, si parfois... Ben, Seigneur, je veux que... Hein, ça veut... On a lu tout à l'heure cette histoire-là. Laisse-le, ne le coupe pas, on va mettre encore un peu de fumier. Elle est belle, cette image. Dieu est patient, heureusement. Hein. Seigneur, si on doit mettre un peu de fumier encore, vas-y, Seigneur. Bon, ça pue un peu, mais c'est pas grave. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Hein. Que Dieu nous aide. Hein. En tout cas, ma prière, c'est que les uns et les autres disent, Seigneur, que ma vie, elle porte du fruit. Que ma vie, elle porte du fruit. Que je sois ce sarment qui porte du fruit. Et vous noterez la progression. Il y a du fruit, beaucoup de fruits, encore plus de fruits. Vous voyez, il y a une progression. Alors que le Seigneur nous aide à ce niveau-là, à progresser. Et je suis convaincu qu'on va porter de beaux fruits à la gloire du Seigneur. C'est ainsi, on l'a lu, que mon Père sera glorifié. C'est ce qu'on veut. Alléluia. Seigneur, merci encore ce soir pour ces quelques versets de ta parole, Seigneur. Et je te demande de nous aider, de m'aider, Seigneur, à porter du fruit, Seigneur. À besoin de toi. Seigneur, je ne veux pas être stérile, Seigneur, être que des feuilles où il n'y a rien, où il n'y a que de l'apparence, Seigneur. Mais vraiment, Seigneur, que... Seigneur, les uns et les autres, tu nous aides, tu nous connais, tu connais nos défauts, les miens, Seigneur. Mais Seigneur, merci parce que depuis que nous te connaissons, tu as fait déjà tellement de choses, tu as raboté, tu as enlevé, tu as coupé. Seigneur, continue cette œuvre en nous, en moi. Seigneur, que le Saint-Esprit fasse son œuvre, Seigneur, et que les uns et les autres nous puissions porter beaucoup de fruits, afin que tu sois glorifié, parce que c'est ça le but, Seigneur, que tu sois glorifié, que le nom du Seigneur soit honoré. Seigneur, je ne veux pas te faire honte, mais Seigneur, je veux au contraire te glorifier. Alors Seigneur, sers-toi de nous, sers-toi de moi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alors Seigneur, viens et visite-nous, remplis-nous du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, encore. Merci pour ta patience, Seigneur. S'il y a besoin de mettre encore un peu de fumier, vas-y, Seigneur. Fais ton œuvre en nous, fais ton œuvre en moi, Seigneur, afin que le fruit soit beau, soit bon, Seigneur, qu'il soit profitable et surtout, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Tu connais les difficultés de chacun, les contextes des uns et des autres, pas facile. Seigneur, aide-nous dans tout cela, Seigneur, à porter du fruit, qu'on voit la différence, Seigneur, qu'on sente la différence, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, garde-nous en toi. Seigneur, je te le demande dans le nom précieux de Jésus. À ton nom soit la gloire. Amen.